Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes le mardi 21 mars et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour toutes celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'écho.
Et nous allons revenir aujourd'hui sur les conséquences de la fusion entre Crédit Suisse et UBS. L'opération crée un monstre financier. Nous vous expliquerons les conséquences pour le secteur. Le rachat de 75% de VOO par Orange validé, il ne reste plus qu'à finaliser la transaction d'ici fin juin. Le groupe français renforce ainsi sa position en Belgique. La Wallonie est-elle trop dépendante des capitaux étrangers? Une étude du CRISP, le Centre de Recherche et d'Information Sociopolitique, nous informe sur le sujet. De nombreux investissements viennent d'outre-Quiévrin. Je suis Guillaume Cordeau et vous écoutez Le Brief.
Le brief, cette info, dès 7h.
Le premier ouf de soulagement passé, les investisseurs continuent à s'inquiéter pour le secteur bancaire. Crédit Suisse a été repris par UBS, certes, mais cette fusion va contribuer à créer un mastodonte au pied d'argile. Bonjour Serge Quadbac.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef adjoint à l'Écho et vous signez l'édito du jour à retrouver sur l'écho.be. Hier, les marchés n'ont pas été complètement rassurés par l'opération. Ils ont ouvert dans le rouge avant de se reprendre à la mi-séance.
Oui, tout à fait. Certains créanciers obligataires de Crédit Suisse se sont vus littéralement dépouillés de leurs avoirs. 16 milliards de francs suisses envolés en fumée, alors que les règles normalement sont formelles. Ce sont d'abord les actionnaires qui doivent boire le bouillon et puis seulement les détenteurs d'obligations. Or, les actionnaires ici, ils ont reçu 3 milliards d'euros dans l'accord. Alors tout ça, ça a fait craindre au marché que ce traitement serait désormais le même pour toutes les autres banques dans le monde. Et il a fallu l'intervention dans le courant de la journée des autorités bancaires internationales pour rassurer les marchés. Elles ont dit que la décision suisse ne ferait pas jurisprudence dans d'autres situations similaires. Et donc ça a rassuré les marchés, effectivement.
Parce qu'il faut savoir que cet accord entre Crédit Suisse et UBS ne fait pas que des heureux.
Ben oui, comme la presse locale titrait hier d'ailleurs, d'un zombie Crédit Suisse, on voit apparaître un monstre bancaire. Effectivement, Crédit Suisse et UBS figurent toutes les deux dans la liste des 30 banques d'importance systémique dans le monde. Elles ont à elles deux plus de 5 000 milliards d'euros d'actifs sous gestion. C'est donc un véritable mastodonte financier que le petit État montagneux, la Suisse, va devoir désormais surveiller et sauver, le cas échéant d'ailleurs. Deuxième conséquence que je vois, c'est dans l'économie. Alors, les soubresauts en Suisse ont mis tout le secteur bancaire en émoi. Chaque acteur bancaire va vouloir montrer qu'il est le meilleur de la classe en matière de risque. Et donc, comment va-t-il faire? Chaque acteur va vouloir resserrer l'octroi de crédit, par exemple. C'est ce que craint la Banque Centrale Européenne. Et ce resserrement va pousser un ralentissement de l'économie au niveau mondial. Et on voit qu'effectivement, cet accord n'a pas fait que des heureux.
Vous le savez, on le dit toujours, le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais cela se vérifie-t-il? En tout cas, ce lundi, la méfiance suscitée par les problèmes de plusieurs banques américaines et de Crédit Suisse a permis à l'État belge de réaliser un emprunt record. Il a réussi à lever près de 4 milliards d'euros, 3,9 exactement, en plaçant des obligations linéaires à 4, 10 et 16 ans auprès d'investisseurs institutionnels, égalant ainsi le précédent record pour une adjudication enregistrée en 2018. Par cette opération, la Belgique atteint déjà 36% de son programme d'emprunt via les HoLo pour cette année, car les investisseurs s'intéressent à nouveau aux titres de dette émis par les gouvernements, qui sont des valeurs refuges en temps de crise. La demande a même largement dépassé l'offre, ce qui fait que les taux d'intérêt diminuent. Des efforts en matière de budget, oui, mais lesquels? Un débat semble avoir démarré au sein de la Vivaldi pour tenter de faire des économies en plus. Idée poussée par l'aile flamande et rejetée par le PS écolo, c'est d'aller au-delà des 0,2% de PIB fixés en octobre. Pour rappel, l'accord de gouvernement prévoit un effort structurel de ce niveau-là chaque année qui peut aller jusqu'au double en fonction de la croissance. Pour l'heure, la position de la Belgique au niveau de son budget est peu enviable, rappelée à l'ordre par plusieurs instances nationales et internationales comme la Commission européenne, le FMI, l'OCDE, la Banque nationale, le Bureau du plan ou même le Conseil central de l'économie. Pour l'instant, il s'agit simplement de vérifier durant ce conclave que ce qui a été décidé donne les rendements budgétaires attendus et d'évaluer de nouvelles dépenses principalement liées à la crise de l'asile, la guerre en Ukraine et la lutte contre le trafic de drogue. Le gouvernement doit s'accorder avant le 31 mars. Le budget revient sur la table du Conseil des ministres restreint aujourd'hui en fin de journée. Retour en Suisse à présent, mais parlons cette fois-ci du climat. Après plusieurs années de compilation de travaux scientifiques, au terme d'une session de 2 semaines à Interlaken dans les Alpes, les experts du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, ont présenté hier leur 6e rapport de synthèse. Résumé de 37 pages, sur 10 000 de recherches rassemblant la globalité du consensus scientifique mondial sur le climat, les impacts de la hausse des températures et les façons de l'atténuer. Pour respecter l'objectif de limitation du réchauffement en dessous des 2 degrés, en clair, 1,5 degré maximum au-dessus des niveaux pré-industriels, les émissions de gaz à effet de serre doivent commencer à diminuer dès maintenant et doivent être réduites de près de moitié pour 2030. Ce qui nécessite des réductions profondes, rapides et soutenues, précisent les experts, dans tous les secteurs. Les scientifiques ajoutent enfin que cette décennie transformera notre climat pour des millénaires. Voilà l'enjeu. C'est le feu vert qu'Orange attendait depuis des mois. Oui, vous me permettrez le jeu de mots, car c'est une bonne nouvelle pour l'opérateur français de télécommunications. La Commission européenne vient d'accepter sa demande de rachat de 75% de VOO. Après un premier examen commencé cet été, l'autorité européenne de la concurrence avait finalement décidé d'ouvrir une enquête plus approfondie sur une durée de 4 mois. La voilà terminée. Arnaud Martin, vous suivez ce dossier pour nous pour l'écho. La dernière étape a été franchie. C'était la plus importante, vous nous dites.
L'accord de l'autorité de la concurrence était indispensable puisque l'annonce du deal date déjà depuis plus d'un an. Mais il y avait des inquiétudes par rapport justement à un possible manque de concurrence suite à ce rachat, puisque avec le rachat de VOO, il y aurait potentiellement plus que 2 acteurs, en tout cas sur le marché wallon. Du coup, justement, cet accord a été possible, mais avec certaines contraintes qui ont été imposées et que le groupe Orange avait anticipé. Puisqu'avant même que l'autorité rende un premier avis, ils ont conclu cet accord avec Telenet, comme quoi chaque opérateur pouvait utiliser le réseau de l'autre dans la partie du pays sur lequel l'opérateur n'était pas. Ce qui fait que Telenet pourra utiliser le réseau d'Orange au sud du pays et ainsi contenter l'autorité de la concurrence.
Orange valorise ainsi l'opérateur liégeois à 1,8 milliard d'euros, soit bien plus que les 1,07 milliards du fonds américain Providence lors de la première vente qui a été annulée. Le closing, la dernière phase du processus de vente, est prévu pour fin juin. Les experts du CRISP, le Centre de Recherche et d'Information Sociopolitique, publient dans leur courrier hebdomadaire leur dernière évaluation de l'actionnariat wallon. Que faut-il en retenir? Eh bien que ces 20 dernières années, le nombre d'entreprises actives sur le territoire ne grandit pas significativement, c'est en revanche leur taille qui augmente. Important aussi, le niveau de dépendance étrangère des entreprises en Wallonie a connu une petite baisse sous le Covid, mais reste élevé. Les Français sont les premiers investisseurs étrangers du sud du pays et trônent également au classement des actionnaires étrangers les plus représentés. David Van Den Abel est coordinateur du service économie du CRISP. Il commente pour nous cette étude et détaille les avantages et les faiblesses de cette dépendance extérieure de la Wallonie.
Dans une économie capitaliste comme la nôtre, on a besoin de capitaux. Que ces capitaux soient belges ou étrangers, à ce stade, peu d'importance. L'intérêt de l'attraction de ces capitaux, c'est la création d'emplois locaux, que ce soit dans l'entreprise créée par ces capitaux ou dans une série de sous-traitants qui vont aussi vivre grâce à ces entreprises, plus grandes que les entreprises wallonnes. Et donc, il y a aussi un transfert de savoir-faire, un transfert de connaissances. Ça, c'est dans les aspects positifs. Des aspects qui entraînent une plus grande fragilité, par contre, c'est d'une part le fait que ces centres de décision ont un ancrage local nettement moins marqué, et donc ils sont situés en dehors du territoire wallon, ce qui rend le politique moins apte à négocier, par exemple, avec ces centres de décision. Deuxième aspect qui entraîne une fragilité, cette manne étrangère, elle entraîne une concurrence entre les différents territoires, une concurrence qui peut amener à des législations notamment sociale, à la baisse entre ces différents territoires afin d'attirer ces capitaux.
Enfin, je m'adresse à vous personnellement, vous, recruteurs et employeurs qui nous écoutez. Saviez-vous que le processus de recrutement d'un candidat n'est pas forcément terminé quand ce dernier accepte votre offre? Non, et bien pourtant, près d'un employé sur 5 s'est déjà rétracté en dernière minute alors qu'il s'était déjà engagé à pourvoir le poste. C'est ce qui ressort d'une étude menée par le spécialiste du recrutement Robert Half en octobre auprès de 1500 employés belges. Le phénomène est en augmentation et il est récent car certains candidats restent attentifs à d'autres offres qui les attireraient davantage. Les motifs invoqués pour un refus in extremis sont aussi bien professionnels que personnels. Vous voilà prévenu. Bien. Et vous, acceptez-vous l'offre du Brief de revenir demain ? Oui ? Alors merci de nous être si fidèles. C'est important et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires sur nos réseaux sociaux. Ils se trouvent facilement. Bon, voilà, tout est dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à demain.